Donc, c'est un peu nouveau. Alors, en fait, il en a parlé, lui, un peu plus tôt, et il dit la chose suivante. Il dit, les premiers versets qui sont consacrés à l'histoire d'Abraham ne contiennent que de vagues indications. La première indication qui est donnée, c'est allusive, c'est la ville d'où Abraham est issu, enfin, c'est Ur Kasdim. Ur, c'est une fournaise. Ur, c'est le feu. Et donc, on connaît Abraham Avinu ayant brisé les idoles de son père, qui était grand fournisseur des idoles du roi, de l'empereur Nimrod, quoi, en quelque sorte. Il est jeté par Nimrod dans la fournaise et il s'en sort miraculeusement. Comment est-ce qu'il explique? Donc ça implique ici que Abraham, à ce moment-là, où il brise les idoles, il a déjà reconnu quelque chose. Il a reconnu Hachem, en tout cas, il a reconnu que les idoles, c'est pas vrai. Enfin, il faut les briser, il faut couper avec les idoles. Ça, même si on sait rien de plus, mais en tout cas, ça, il a compris. Et donc, en fait, en tant que serviteur d'Hachem, il s'expose. Effectivement, Nimrod, qui est un roi tout puissant à l'époque, toute la population est idolâtre autour de lui, son propre père est idolâtre. Et là, du coup, on a une tradition qui dit qu'Abraham a commencé à croire en un dieu créateur, puis en un dieu personnel, si on veut, dès l'âge de 3 ans, d'après d'autres à l'âge de 40 ans. Peu importe, en tout cas, voilà, avant qu'Hachem ne lui parle, il a 70 ans là, avant qu'Hachem ne lui parle, il est... Ben non. Avant qu'Hachem ne lui parle, il a déjà reconnu Hachem, donc. Il n'est pas mentionné du tout de mérite, l'allusion elle est au Kasdim, c'est pas terrible comme allusion, comme accroche en fait. Enfin, c'est quand même ça. Et... Non, il n'a pas embêté toute la soirée avec ça. Bon, alors, visiblement, c'est quelqu'un qui a dû réfléchir. Il y a les Midrashim qui dit qu'il a vu la vue. Il a vu la Ra'et Abira, il s'est dit, c'est sûr que la ville doit avoir un créateur ou un patron, etc. Et il a commencé à chercher qui est le patron, et de fil en aiguille, où il y a d'autres Midrashim qui disent qu'il a pensé que c'était le soleil qui était la divinité, puis après, la nuit, il a passé à la nuit, à la lune, etc. Bon, tout ça, c'est... Mais en fait, ce dont parlent surtout les Chachamim, qui est un petit peu nouveau, c'est qu'ils parlent des reins d'Abraham Avinu. C'est eux qui lui donnent une forme d'inspiration. C'est le Midrash. Et en fait, il avait entendu quelque chose quand même de Noach, parce qu'Abraham a connu Noach. Et Noach, il connaissait la tradition de la création du monde, parce qu'il avait connu Lémer, c'était son père. Lémer, c'était le père de Noach, et Lémer a connu Adam Arishon. Donc il y a une transmission, en fait, de choses peut-être pas très claires, mais en tout cas, lui, il a dû comprendre quelque chose. Mais ce qui fait de lui... le géant qu'il est devenu, en fait, c'est la force suggestive qu'il a eue pour convertir, pour dire dans le langage d'aujourd'hui, convertir les gens. Qu'est-ce que c'est que cette idée des reins? Le rein, c'est un filtre. Ça veut dire que Abraham Avinu, comme nous d'ailleurs, quand nous réfléchissons à quelque chose, il nous vient une multitude de... Lui aussi... D'accord. Il nous vient une multitude d'idées. de remonter le fil des idées qui nous sont venues, on n'arrive pas à connaître la première. Parce que la première, elle a peut-être été tout de suite chassée. Non, c'est pas ça, c'est tout de suite. Et lui, il avait un filtre. C'est-à-dire que lui, il savait trier. Sa force, c'était pas tellement de produire des idées, parce que les idées, tout le monde en a. Mais sa force, à lui, c'était de savoir être capable de trier. C'est ça qu'on dit qu'il avait un filtre. Les reins, c'est un filtre. Il filtrait toutes les idées qu'il avait et qu'il laissait, ont finalement laissé passer que des idées correctes. Alors, quelle était la règle du filtre? Bon, c'est sûrement, on peut doit dire que c'est une forme d'aide d'Hachem, visiblement, sinon... Mais ça, c'est avant même que Hachem se manifeste à lui. Donc, malgré tout, donc, il a fait quelque chose. Il a la première fameuse épreuve, c'est l'épreuve de la fournaise. Et en fait, ce miracle-là, curieusement, c'est quand même un énorme miracle, ben, il n'a pas été publié tellement. Parce que Nimrod n'était pas intéressé à le publier. Les gens seraient posé des questions. Mais du coup, Terach, en tant que père d'Abraham, est devenu persona non grata à Okazdim, et il est parti, il en est parti. Et ce qu'on a vu la semaine dernière, enfin dans la paracha dernière, c'est que, curieusement, le texte porte que c'est Terach qui a pris. Vaikar Terach est Avram Beno. Terach a pris Avram son fils. Il a pris Lot ben Haran, ben Beno, son petit-fils. Le fils d'Haran qui lui était mort parce qu'il est entré dans la fournaise avec l'intention d'en sortir. Donc il n'en est pas sorti. Et Sarai Kalato, et Sarai. La femme d'Abraham. Ils sont sortis, Vayetsu Itam, Meokazdim, littéralement c'est écrit ici, ils sont sortis avec eux de Okazdim. Ils sont sortis avec eux de Okazdim. La grammaire a voulu qu'on écrive. De qui on parle? Qui est le sujet? Terach. Terach a pris, donc on a dû écrire ça au singulier. Il est sorti de Okazdim. Comment est-ce possible que le texte porte « ils sont sortis » au pluriel? Alors Rashi dit « ils » au pluriel, c'est Avram et Terach. Et certains expliquent, ça explique qu'en réalité, c'est donc Avram qui a pris l'initiative de partir, parce que lui, il était recherché, vraiment. Et... Seulement, le Netziv, il dit qu'Avram, c'était un penseur, un rêveur, qui était pris dans des réflexions, il s'occupait il voulait connaître la divinité, etc. Il était totalement incapable d'organiser un transport de Okazdim jusqu'à la direction d'Eretz Kenan. Donc c'est son père qui est son chaliar quasiment. Alors, comme il est le père, il est cité en premier. Mais ils sont cités au pluriel, alors que normalement un fils par rapport à son père, il n'aurait pas dû être cité avec son père, il aurait dû être cité par ceux avec ceux qu'ils ont pris. Alors la troisième génération, les petits-enfants, Sarah et Lot, c'est des frères et sœurs, ils sont les petits-enfants de Terach. Alors, le grand-père Terach et le père Avraham, il est père de rien du tout, mais enfin bon, et son fils Avraham, ont pris quelqu'un dans la troisième, ils ont pris les deux autres dans la troisième génération, en quelque sorte. Et ils sont partis en direction de... Pourquoi ils sont partis là-bas? Pourquoi ils partent en direction de Eretz Kenan? Ils pouvaient partir... Il est à Okazdim, il est en Irak, oui. Pourquoi il va là-bas? Il peut partir plus loin, en Iran, il peut partir dans n'importe quelle direction. Turquie, où il veut. Pourquoi il part vers le sud, enfin vers... Ouais. Alors certains disent, qu'en réalité, quand on dit d'Abraham qu'il était Abraham à Ivri, on le dit également sur On le dit également sur Terah, qui était aussi à Ivri. Et de Ivri, il y a plusieurs significations. Certains disent qu'il faut entendre là que Ivri, il était sur une des berges, sur une des rives du fleuve, et le reste du monde était sur l'autre rive. Bon, ça va très bien pour Abraham. Mais on peut aussi le dire sur Terah, à partir du moment où tout le monde était idolâtre, et que lui, à ce moment-là, il s'est rallié aux idées d'Abraham. Donc ils sont là, ce tout petit groupe, d'un côté du fleuve, et de la terre. Et alors, certains veulent dire que ça vient pas de là. Que ça vient de ce que ils sont... qu'en fait, Terah venait de la région qui appartenait à Éver. Éver, c'est l'arrière-petit-fils de Shem. Et donc, Ivri, c'est la chaîne Éver. Et donc, il était de la tribu de Éver, enfin, de l'école de Éver. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il fait au Kasdim? Éver, son territoire, évidemment, c'est Eretz Israël. Et Sémit, Éver, c'est un Sémit, évidemment. Donc, son territoire, c'est en Eretz Israël. Enfin, en Eretz Kenan, si vous voulez. Qu'est-ce qu'il fait au Kasdim? Ben, il est un exilé au Kasdim. Peut-être parce que c'était quand même la Mésopotamie, c'était la grande civilisation, c'était l'invention de l'écriture, tout commence là-bas, etc. Donc c'est assez logique qu'il soit allé là-bas. En plus, je ne sais pas quelle raison il devait être spécialiste des idoles, il a fait une carrière là-bas. Et quand il doit partir, ben il retourne chez lui. Il retourne en direction de chez Éver. Ça explique pourquoi il va au sud, parce qu'il retourne de là où il est originaire. Et normalement, il aurait dû descendre jusqu'en Eretz Kenan. Mais Akadosh Baruch Hu a fait en sorte qu'il s'arrête à Haran, qui est un peu avant d'arriver en Eretz Kenan, parce que c'était un endroit très riche, et il s'avère que c'était aussi, Hachem le savait, c'est un endroit où Abraham et Sarah vont pouvoir faire énormément de prosélytes. D'accord? C'est un effet chercher à Soub et Haran. Ils ont fait tous les prosélytes, ils ont fait là-bas, à Haran. Alors, il y a une petite question, c'est pourquoi il n'a pas pris Nahor? Il y avait un troisième fils. Pourquoi il ne le prend pas? Alors, le Netziv dit que Nahor, lui, il était du camp, il était avec Nimrod. Un idolâtre. Et donc, quand il part, ben lui, il ne part pas avec, parce qu'il n'a rien à faire là-bas. Et le problème, c'est... Ce qui s'est passé, c'est que quand Abraham va abandonner son père, parce qu'il l'abandonne, il abandonne son père, c'est ça l'arrachement. Lech lecha, mecharan. Et c'est considéré comme Oukazim, parce que ils ont tout amené de Oukazim à cet endroit-là, c'était... Voilà, ils ont refait c'est la maison paternelle, on a refait toute la structure. Ils ont fait ce chemin là. Il est maintenant, c'est fait, mais Haran, c'est lourd, c'est enrichi du chemin déjà fait de Oukazim à Haran. Mais il y a du Oukazim encore là. Et alors, quand Abraham a abandonné Terah, son père. Terah s'est retourné, il a fait venir son fils Nahor, et il est redevenu idolâtre. C'est la raison pour laquelle Terah n'est jamais venu voir Abraham, qui n'était pas tellement loin en fait, il ne vient jamais le voir. Lui, Abraham, il a reçu un ordre de quitter avec son père, couper avec son père, mais Terah aurait pu venir le voir. Il ne vient pas le voir, parce que lui, il est acquis aux idées, maintenant il a refait sa... revirer sa cutie, il est de nouveau idolâtre. Ça, c'est Terah. Donc ça, c'est, si vous voulez, la genèse de ce qui se passe avant le Lech Lecha, hein, si on considère que le Lech Lecha a été dit après. Il y a des Mefarshim qui disent qu'en vérité, c'est En Mugdam Mocha Batorah, les parchiotes, elles peuvent être, elles peuvent glisser chronologiquement, et peut-être que le Lech Lecha a été dit avant.
Sur les vers, je ne comprends pas bien, parce qu'en fait, le vers, il est antidiluvien, ou il est après? Il est après.
Le vers, il est après, oui.
Il est après. Donc, on dit, je crois, dans la paracha, que tous ces gens-là, ils se sont, en fait, fixés dans la région de Shinar.
Non, 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 c'est pas juste.
Alors, Shinar, c'est plutôt vers Babel, je suppose.
Non, non, c'est... Ce qui s'est passé, c'est Babel. Mais ce qui s'est passé, c'est que les gens qui sont sortis de l'arche, oui, ils sont restés sur place.
Voilà, c'est...
À Ararat, en Turquie.
En Arménie.
Oui, Arménie, Turquie. Et ils ont grandi, et il y a eu un moment où il n'y avait plus de place pour eux. Donc ils sont allés, tout le monde est parti à Shinar. Ils sont partis à Shinar, ces gens-là, mais... Les Sémites, probablement, ils se sont déjà plus ou moins séparés. Ça a pris du temps. Les Sémites, ils ont occupé les territoires qui étaient les leurs, c'est-à-dire l'Asie, donc Israël, enfin, ce qui s'appelle Eretz Canaan. Et les Cananéens, qui eux n'avaient rien à faire là, puisque les Cananéens sont descendants de Hur, de Ham, donc eux c'est l'Afrique. Les Cananéens ont fait la guerre, et ils ont gagné la guerre contre les Sémites, et ils ont occupé le territoire. Donc, les Cananéens qui sont là, dans toute l'histoire, ils s'appellent Eretz Canaan, c'est pas du tout Eretz Canaan. Au sens, initialement, c'est Eretz Shem. C'est le territoire de Shem. Seulement, les Cananéens ont gagné la guerre, et les règles de la guerre, ils ont occupé, et ils ont gagné le territoire. Et quand les Bnei Israël vont faire la conquête d'Eretz Israël, les autres vont crier aux voleurs, mais vous criez aux voleurs, vous êtes là pourquoi? Parce que vous avez gagné la guerre. Nous, on a gagné la guerre, maintenant, c'est à nous. De quoi? C'est moi qui le sors de ma manche.
Non, mais dans le texte.
On ne le voit pas apparaître. On ne voit rien apparaître, justement. On ne sait rien d'Abraham Avinu.
C'est un petit peu dommage, parce que cette histoire de Hébert est intéressante. Dans la mesure où Hébert, donc c'est, comme vous disiez,
c'est Shem.
L'autre rive.
Ouais, ah, oui.
Alors c'était intéressant de rapprocher effectivement cela de la part d'Abraham, qui vient, je pense, de l'autre rive de l'Euphrate, sans doute.
Ah, non, mais là-bas, c'est... Oui.
Alors, bon. Non, c'était pas mal comme construction.
Ah oui. Mais enfin, c'est ça, vous avez collisionné deux...
Oui.
Enfin, bon. Les Midrashim, il y a ceux qui disent comme si, Ever, le personnage Ever, et d'autres qui disent que c'est l'autre rive. Mais c'est deux Midrashim. En fait, si j'ai bien compris ce qu'ils disent, c'est que de Kourkazim à Haran, c'est déjà aller de l'Est vers l'Ouest. Ce qui est aussi la démarche des gens de la tour de Babel, enfin, qui eux sont aussi à l'Est, à l'extrême Est, et qui vont aussi go west, c'est-à-dire qui vont vers l'ouest quand ils vont à Shinar. Parce que l'Irak, par rapport à l'extrémité de la Turquie où se trouve Ararat, d'accord, c'est vraiment l'ouest. Donc, tout commence, ils vont toujours vers l'ouest. Les gens de la tour de Babel sont allés vers l'ouest, et lui aussi, il va vers l'ouest. Abraham aussi. Donc Abraham, il s'embarque dans une recherche de la vérité. Akadosh Baruch Hu lui donne l'ordre donc de tout abandonner. Pratiquement, ça veut dire que tu abandonnes tout et tu pars, non pas pour une destination connue, mais inconnue. Je te dirai, quand tu y seras, je te dirai. Avance. C'est assez énorme ce qu'il lui est demandé là. C'est une coupure, non pas simplement tu coupes pour aller ailleurs, Tu coupes pour aller, je sais où, je ne sais où. Bon. Alors, Akadosh Baruch Hu lui dit, voilà, je vais te faire un grand nom, je vais te bénir, et je vais faire de toi un grand peuple, je vais te bénir, et je vais grandir ton nom, et tu deviendras une bénédiction. Au point que celui qui te bénira soit béni, celui qui te maudira soit maudit. Et tu seras une bénédiction pour... Tout le monde prendra référence sur Abraham pour bénir ses enfants. Alors Abraham a fait ce qu'Hachem lui a demandé. Et là on nous dit, va yalechito Lot. Lot est allé... Abraham n'a pas pris Lot. Lot est allé avec lui volontairement. Ici, il suit son oncle volontairement. Et Abraham, à ce moment-là, quand il part, il a 75 ans. Lui, il prend Sarah, il prend sa femme. Là, on nous dit maintenant qu'il a pris Lot, alors que Lot est allé avec lui, mais bon, ça veut dire qu'il a accepté de prendre Lot en charge. Et ils prennent tout leur bien. C'était un endroit où on pouvait s'enrichir, semble-t-il, Haran. Et ils partent avec tous les convertis qu'ils ont fait à Haran. Tout ce monde-là se dirige vers Eretz Kenan. Ils sortent et ils vont en direction de Kenan. Donc c'est très pointu le texte. Voilà. Tout le reste du chemin ne nous intéresse pas. Voilà, ils sont arrivés. Et va y avoir Avram, Be'eretz. Et Avram a pénétré dans Eretz Kenan, il est descendu jusqu'à Naplouse, jusqu'à Shrem. Il a même jusqu'à Alon Moré. Et on nous dit, va Kenani as Be'eretz. À ce moment-là, le territoire est occupé par les Cananéens. Il faut nous le dire, parce que normalement, ce territoire, il appartient aux Sémites. Donc, ensuite, Vayera Hachem et Avram. Du coup, maintenant, Hachem se montre à Abraham. Certains disent que tout ça, c'est un rêve. Tout se passe en rêve. C'est Maïmonide qui pense comme ça. Vayomer, et il lui promet, le Zaracha et Teneta Aret Sazot. Je donnerai ce pays à ta descendance. Alors, en reconnaissance, Abraham a voulu construire un Mizbeach à Hachem qui s'est montré à lui. Ensuite, il va du côté des montagnes, il va à l'est de Bethel, il plante sa tente à Bethel. Non, il plante sa tente là-bas. Il a donc Bethel côté mer et Haï côté est. Et là, de nouveau, il reconstruit un autre Mizbeach, et il crie le nom d'Hachem. Ben, il crabe Shem Hachem, c'est comme ça, il construisait un Mizbeach, et il criait le nom d'Hachem. Et ensuite, on nous dit qu'il a parcouru alors Venasoa, pardon, Anekba, donc, il a parcouru en tous sens, Eretz Israël, Chazal dit, c'est une façon d'acquérir cette terre. Mais elle lui a été promise, il fait un kinyan sur la terre en question. Et arrive, Hachem vient de lui promettre la terre. Qu'est-ce qui arrive? Famine. Cette fameuse terre qu'on vient de lui promettre, elle produit la famine. Et alors, Abraham, il s'en va. Il part en Égypte. Il s'y installe, parce que la famine est énorme. Et vous connaissez tout l'épisode avec sa femme. Le Ramban, il tombe à bras raccourcis sur Abraham. Il dit qu'Abraham, c'est une erreur gigantesque qu'il a faite là. Il aurait dû faire confiance à Hachem. C'est un manque d'émouna de la part d'Abraham. Il faut être le Ramban pour le dire, mais enfin bon, il le dit. Et sur la lancée, on dit que d'être descendu en Égypte, c'est ça qui a fait qu'on a dû ensuite descendre nous aussi en Égypte. Bon, c'est-à-dire qu'il a, il a pavé le chemin pour que les Bnei Israël doivent descendre en Égypte. Donc on a l'impression, d'après ça, que si Abraham n'était pas descendu en Égypte, on aurait fait l'économie du Galout Mitzrayim. Rien que ça. C'est vrai que c'est, ça n'a pas l'air spécialement glorieux, son affaire. Parce que qu'est-ce qu'il va faire? Il est quasiment obligé de... Il va quasiment monnayer sa femme, quoi. Tu vas dire que... C'est vrai qu'à partir du moment où il a fait la faute, si on considère que c'est une faute, il est en Égypte et il ne peut pas s'en sortir. Parce que s'il dit la vérité, comme Sarah est excessivement belle, on va le tuer. Parce que Paro, il la voudra dans son harem, mais il ne voudra pas, il va pas l'enlever à son mari, il va arriver un accident de la route à Abraham, il va mourir le pauvre, et Paro voudra bien s'occuper de...
J'aime bien lui dire, il y a quelques lignes qu'il est avec lui, et qu'il va être une grande nation.
Mais oui, c'est vrai, mais c'est lui qui descend en Égypte.
En fait, l'histoire de Jacob, on s'est posé les mêmes questions, il dit, je suis avec toi,
alors c'est ça, c'est le problème d'Iramban, c'est qu'il n'a pas fait confiance à Hachem. Et donc, quand tu ne fais pas confiance à Hachem, tu te retrouves dans une nouvelle situation où tu vas faire quelque chose qui apparaît inadmissible, quoi. Il lui dit, dis que tu es ma sœur, ils vont te prendre, on va te mettre dans le harem de Paro. Et moi, on va me faire du bien. Donc moi, je vais devenir riche. Quand tu dis des choses comme ça, tu te demandes à qui on a affaire, quoi. Bon, mais c'est ce qu'il est en train de faire. Seulement, il n'a pas le choix. Parce que s'il ne se fait pas passer pour le... Il peut dire à Sarah, écoute, de toute manière, ils vont te prendre. Ou ils me tuent, à ce moment-là, personne ne pourra jamais te sortir du harem de Paro. Si moi, je suis vivant... Peut-être que j'arriverai à te sortir, disons, du harem de... Peut-être que je pourrais te racheter, ou je sais pas quoi, quelque chose. Si je suis vivant, il y a une chance que tu puisses sortir. Mais si je suis mort, personne ne te sortira jamais du harem de Paro. Mais il l'a mise, lui, il a mis Sarah dans une situation incompréhensible. C'est-à-dire, c'est presque honteux, quoi. Ben, ça se passe exactement comme il l'avait craint. Bien sûr, il y a les Midrashim qui dit qu'il a essayé de la cacher, mais ça n'a pas marché, évidemment. Et on lui a fait beaucoup de bien, et Sarah, elle est dans le harem de Paro. Bon, après... Bon. Alors, Akadosh Baruch Hu s'est mêlé de l'affaire, quoi. Hachem a envoyé il a envoyé la lèpre à Paro, et à tout le monde. Et donc Paro n'a pas pu s'approcher de Sarah. Et il a compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc il a convoqué Avram. Et il a dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Alors certains Midrashim disent que Paro, quand il a vu ce qui se passait, il a attrapé Sarah et il a dit, maintenant tu me dis la vérité, quoi. Et elle a craqué. Elle a dit la vérité. C'est pour ça qu'il a appelé Avram et il lui dit tout de suite... Mazot Asitali, qu'est-ce que tu m'as fait? Tu m'as raconté qu'elle était ta sœur, et en fait, c'est ta femme. Alors, bon, maintenant, voilà, prends-la. Et seulement, avec toutes les chances, elle est toujours aussi belle, et il y a des Midrashim qui disent que quand les officiers de Paro l'ont vu au tout début, chacun voulait la prendre pour soi. Ils se sont dit, si Paro il apprend qu'on a pris pour nous cette extrêmement belle femme, ce n'est fini de notre affaire. Donc ils n'ont pas osé. Mais maintenant que Paro la renvoie, bon ben, il y a toutes les chances qu'ils essaient de mettre la main sur elle. Ils vont pas se gêner, ils vont tuer le cas échéant, tuer tout le monde, quoi, et la prendre. Alors, Paro qui a compris l'affaire, il lui donne une escorte. Il donne à Abraham une escorte. Et il le renvoie et il dit à l'escorte, veillez qu'il quitte le pays, quoi. Et donc Abraham quitte le pays et il remonte. Vayal, Abraham, Mimitzraim. Uvi, Ishtov, Kalasherlo, Lotimo, Anekba. Et qu'est-ce qu'on dit? Abraham, Kaved, Meod. Et Abraham est extrêmement riche en troupeaux, en argent et en or. Bilan de l'opération, Abraham est ultra riche. Et en fait, on va apprendre après que Lot aussi, il a pris sa part dans l'affaire, lui aussi, il est ultra riche. Vous savez quoi? On sort d'Égypte, il sort d'Égypte avec un grand butin. Cette partie-là aussi, elle sera réalisée avec les Bnei Israël. Quand ils sortent d'Égypte, ils ont tout un butin. Ils ont tout un butin. Les Bnei Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, avec Moshe Rabbeinu, ils ont un butin et ils ont besoin de ce butin. Pourquoi? Parce qu'ils en ont besoin pour construire le Mishkan. S'ils n'avaient pas ce butin énorme, si on les avait laissés partir pour un bar, où ils auraient trouvé les matériaux pour construire le Mishkan? Ça veut dire, l'histoire du clan Israël avec le Mishkan, etc., tout ça, c'est réminiscent ou c'est mis en marche par une démarche analogue que le Ramban continue de reprocher complètement à Abraham Avinu. Donc c'est, si vous voulez, il y a une espèce de même situation qui se retrouve. Les Bnei Israël vont descendre à cause d'Abraham, et ils vont aussi remonter comme Abraham, et ils vont remonter avec un grand butin. Donc là aussi, il faut dire que Abraham sort avec un grand butin, et la question de savoir, c'est la question de l'argent. Parce qu'on va voir que là maintenant, pendant tout un moment, il y a toute une histoire d'argent. Lui, il est riche, l'autre est riche, il y a la dispute des bergers, ils sont tous les deux trop riches pour rester sur cette même terre, en tout cas, c'est comme ça que l'autre voit les choses. Et l'autre va se séparer d'Abraham. Et ça joue un rôle très important, cet argent. Toute la séparation, elle est due à l'argent, due à la richesse. S'ils étaient restés pauvres comme ils étaient, et Chazal disent dans le Midrash que Abraham Avinu, quand il remonte en Eretz Kenan, il repasse par les mêmes chemins par lesquels il a passé, parce que quand il est descendu, il a fait des dettes, alors qu'il n'avait pas d'argent pour descendre, et donc il aurait fait des dettes. Et il est repassé par les auberges par lesquelles il est passé, où il avait des ardoises, et il est passé repayer pour payer ses dettes. Certains disent que c'est pas vrai, c'est pas possible, qui est-ce qui allait lui faire crédit à un pauvre type que personne ne connaît, ni d'Ève ni d'Adam. D'accord? Donc c'est pas vrai qu'il avait des dettes à ce sens-là, mais les dettes qu'ils avaient sont d'un autre ordre. C'est que Abraham Avinu, partout où il passait, il proclamait la grandeur d'Hachem. Alors les gens, partout, lui disaient, oh, mais si ton Dieu, il est tellement grand, comment se fait-il qu'il te fasse t'es devenu un juif errant, quoi, longtemps, et il a de quoi payer les auberges, mais bon, c'est tout. Comment se fait-il que tu sois un juif errant, comme ça, si ton Dieu. Donc il avait des dettes, au sens où il n'a pas su leur répondre, il ne pouvait pas répondre, qu'est-ce qu'il a? Et quand il revient et qu'il est très riche et tout, ben il a une réponse. Il dit, voilà, il y avait une épreuve, j'ai passé l'épreuve, et c'était pour que je revienne. Et du coup, il va devenir un prince, comme on va lui dire au moment de l'enterrement de Sarah, Nasiata, tu es un prince parmi nous, etc. Il était nécessaire qu'il soit, qu'il ait une grande surface financière, qu'il soit imposant, kaved meod, très lourd, ça veut dire très, d'accord. Donc c'est nécessaire, donc il en a besoin pour jouer son rôle, comme les Bnei Israël en auront besoin pour jouer leur rôle.
Question pour revenir sur la décision d'Abraham de descendre en Égypte à cause de la famine. Est-ce qu'il descend en Égypte de son propre chef?
Oui, ce n'est pas Hachem qui l'a dit, au contraire.
De toute façon, tu ne sais pas, je vais t'indiquer où tu vas. Alors, peut-être que c'est Hachem qui lui dit... Est-ce qu'il savait ce qui était conscient qu'il était arrivé à bon port?
Il était arrivé à bon port parce qu'Hachem lui a dit « Je donnerai à ta descendance ce pays-là. »
Donc c'est sa décision.
Sinon le Ramban n'aurait pas pu le tomber dessus.
C'est pour cette raison qu'il revient avec du
Kavod. Alors il revient avec, comme vous dites, il revient avec du lourd, quoi. Et dans tous les domaines. Et il arrive, bon voilà, il se réinstalle. Se demander qu'est-ce que c'est, pourquoi la Torah elle donne ici tellement d'importance à cette question d'argent. C'est devenu un sujet tellement important, cette richesse là. Un mot qui ramène un Zohar qui dit, je reviens un peu en arrière, explique que la dispute entre les bergers d'Abraham et ceux de Lot, qu'on explique de façon traditionnelle, comme Rashi le dit, c'est que les gens, les bergers de Lot disaient Lot c'est l'héritier d'Abraham, parce qu'Abraham n'a pas d'enfant, son héritier ce sera Lot, donc les terrains d'Abraham sont déjà d'une certaine manière les terrains de Lot, donc on en profite déjà. Ce qu'il ne pouvait pas faire, parce que même Abraham n'avait pas encore pris possession de la terre, parce que, comme dit le Passouk, sinon on ne sait pas pourquoi c'est reprécisé, que dans ce pays, le Cananéen et le Phrygien sont encore là. Ils sont là et s'occupent le terrain. Mais en fait, cette raison-là, ce n'est pas la raison ultime. Le Zohar, il pense qu'il y a une raison plus profonde, et il pense que Lot voulait revenir au culte des idoles. Pourquoi? Parce que les gens du pays pratiquaient ce culte. Il a voulu faire comme tout le monde. Donc lui, il veut revenir aux idoles. Et donc, il se retire de l'Orient, en quelque sorte. Et ça veut dire qu'il se sépare de celui qui est... L'Orient, c'est Kadmon, c'est celui qui est le créateur du monde, qui est avant la création du monde. Et il dit que je veux ni d'Abraham ni de son Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, il est de nouveau en fait comme son père, qui formellement il avait accepté, il avait dit qu'il était pour Abraham parce qu'il pensait que bon, ça nous fait des miracles, j'y vais. En fait, au fond de lui-même, il était idolâtre. Donc au début, il avait choisi Abraham et son Dieu, puis ensuite il a changé d'avis. On voit très bien que c'était pas acquis, ni par aucun d'entre eux. C'était, on voit aussi que le grand-père, enfin le Terach aussi, il a fait la même chose. Il est descendu avec Abraham, puis ensuite quand Abraham fait quelque chose qui lui a pas plu, ben c'est pas contre Abraham qu'il en a eu, c'était contre son Dieu, quoi, et qu'il a balancé toutes ses... Tout le dieu d'Abraham, et il a fait venir Nahor, qui est son fils idolâtre, et il s'est remis à l'idolâtrie. Les choses étaient probablement très... Bon, il faut savoir exactement quelle idolâtrie c'était, qu'est-ce que c'était, je ne vais pas rentrer maintenant là-dedans, c'est probablement plus subtil que ce qu'on croit, c'est peut-être pas si grossier que ça, parce que c'était quand même l'idolâtrie de la plus grande civilisation, ou la première civilisation. Au Kazdim, c'est la Mésopotamie, c'est tout vient de là-bas. Alors la séparation entre Abraham et Lot, qui pourrait n'avoir été qu'une séparation provisoire, c'est-à-dire, bon, cette génération, mais ensuite on peut se remettre ensemble, les enfants peuvent se remettre ensemble. Il se trouve que les enfants de Lot, que tout le monde connaît, qui sont Ammon et Moab, sont les seuls peuples dont on n'accepte jamais la conversion. Donc la séparation de Lot est une séparation définitive de chez définitif. Les descendants de Lot n'entreront jamais dans le clan d'Israël. Donc à tout jamais on est séparés. Il n'y a aucun Amalek qui peut entrer. Les descendants d'Aman, ils étudient la Torah à Bnei Brak. Bon, les descendants de Sisra, enfin, tous ces gens-là, qui sont des crapules, d'accord, ils ont néanmoins leurs descendants, donc ça veut dire ils ne sont pas définitivement, au moins au niveau de leurs enfants, ils ne sont pas définitivement exilés, définitivement séparés du clan Israël. Mais eux, oui, Ammon et Moab, c'est définitif. En tout cas, chez les hommes. C'est intéressant de voir que ça se présente comme une séparation. Cette séparation-là, qui est une séparation du temps de la Genèse, quoi, si vous voulez, c'est une séparation qui va se concrétiser au moment où les Bnei Israël sont dans le désert, dans les 40 ans de pérégrination des Bnei Israël dans le désert, on va leur dire, Ammon et Moab, ils n'entrent pas dans le clan d'Israël. Et néanmoins, c'est la marge de Lot, c'est-à-dire Ammon et Moab, eux, ils n'entrent pas dans le clan d'Israël en tant que Moabites et Ammonites, mais les femmes vont entrer. Elles vont pas simplement entrer, d'accord, mais par le biais de Ruth, elles vont entrer et Ruth va être l'ancêtre du Mashiach, l'ancêtre de David Amer, l'ancêtre du Mashiach. Excusez du peu. D'accord, ça veut dire que les hommes sont exclus à tout jamais d'entrer en plein Israël, et il y a une femme dans chacun, chez Amon, chez une femme de chez Shlomo Ameler, une femme de Shlomo Ameler, oui, qui sont donc des femmes qui jouent un rôle fondamental, parce que la femme de Shlomo Ameler, c'est aussi, elle aussi, elle est dans la chaîne du Mashiach, puisque Hachem a promis à Avraham Avinu, et a promis, pardon, il a promis à David que la chaîne du Mashiach, elle passerait par son fils Shlomo. Il avait d'autres enfants, David. Donc si David savait... David, c'était le Mashiach, si vous voulez. Le Mashiach initial, quoi. Il est ouin, c'est juste, il est ouin. Et son descendant, mais les descendants de David, il y avait le choix. Alors, Hachem lui a dit, c'est un enfant de Shlomo Ameler. Ça va passer par Shlomo. Et ça va passer par Shlomo, et il avait pas mal de femmes, Shlomo, et ça va passer par Naama Ammonit, donc la mère de Rehoboam, donc la Ammonite dont Hachem a dit, je veux pas détruire le peuple de Ammon et Moab, parce que j'ai encore deux éléments à prélever, deux choses très précieuses à prélever là-dedans, ce sont ces deux fameuses femmes. Donc Ruth et Naama. Donc ici, il se joue quelque chose, si vous voulez, il se joue les préalables, enfin, une espèce de schéma préalable de la descente et de la remontée du clan d'Israël en Égypte, et il se joue la séparation définitive avec Ammon et Moab, on est obligé, quand on dit sépare définitivement, on est bien obligé de dire que c'est vrai pour les hommes, pas pour les femmes, et on est obligé d'amener le Mashiach sur le terrain, quoi, ici. Donc le sujet Mashiach, là, il arrive comme un cheveu sur la soupe, mais il est là, déjà, tout de suite. Alors, je ne sais pas, la vérité, pourquoi cet accent sur la richesse. Il y a un Sefer Hayasha qu'on attribue à Rabbeinu Tam, qui dit que quand on dit qu'Abraham était très riche, Kaved Meod, alors il y avait effectivement pendant ces 3 mois, dit Rashi, il a passé 3 mois en Égypte et il a ramassé beaucoup d'argent, parce qu'il était le frère de la reine, enfin de la. Le frère de, je sais pas quoi, la favorite de Paro, je sais pas quoi. Mais évidemment, ça correspond à des richesses, lui il dit, ça correspond à des richesses spirituelles, qu'il a acquise auprès des sages et des astrologues de son pays. C'est marqué qu'il va ensuite introduire Zoroastre dans l'art de l'astronomie, parce qu'il a vu des modifications depuis le déluge dans l'ordre de la création. C'est ce que dit Sefer HaYashar. Donc il a aussi appris la sagesse égyptienne. De la même manière que Moshe Rabbeinu va apprendre la sagesse égyptienne aussi. Moshe Rabbeinu, il est 40 ans, prince héritier d'Égypte. Donc il connaît tout ce qu'on doit connaître sur l'Égypte, n'est-ce pas ? Tout ce que doit connaître un pharaon, puisqu'il est, c'était lui le prince héritier. Quand Lot va choisir, il va se séparer, alors Abraham lui dit, tu choisis. Tu vas à gauche, tu vas à droite, si tu vas à droite, je vais à gauche. Alors le Passouk nous raconte longuement qu'il a regardé du côté de Sdom, qui était verdoyant, c'était très, très bien irrigué, c'était vraiment une espèce de paradis sur terre. Il va là-bas, il dit, je vais là-bas.
La question, c'est que s'il avait dit je vais à droite, est-ce que Abraham serait parti à Sdom?
J'en sais rien, mais je suis pas très fort dans l'histoire fiction.
Non, c'est ce que je veux dire, c'est que
Abraham voulait pas aller. Abraham, il est allé sur la route de Sdom, mais il n'est pas allé à Sdom. De ce point de vue-là, l'autre, il a pensé qu'il pourrait faire mieux qu'Abraham. Abraham, il n'a pas voulu aller à Sdom. Mais il a quand même traité avec toutes les crapules qui étaient sur la route de Sdom. Les gens qui faisaient du business avec Sdom. Alors à ta question, dans le Midrash Rabbah, le Midrash dit que Rabbi Yochanan dit comme ça. Il faut lire comme ça. Si tu vas à gauche, c'est-à-dire si tu vas au nord, j'irai à droite, c'est-à-dire au sud. Sinon, j'irai à droite, je te ferai aller à gauche. Parce que Asmeïla, je te ferai aller à gauche. Parce qu'Abraham Avinu, il voulait aller au sud. Donc parce que le sud c'est la Chokhma, et le sud c'est Eretz Israël. C'est ce qu'il voulait, Beer Sheva, je ne sais pas exactement de quel sud il voulait, pourquoi il voulait aller d'Afka au sud. Lui ramène un mot qu'il explique le sud. Il dit que Abraham est parti, quand il est entré en Eretz Canaan, il s'est dirigé plein sud. Et il ramène Rashi et d'autres qui disent que le sud c'est le côté où règne la lumière. Et c'est pour ça que la menorah dans le Beth Amigdash elle était au sud. Et c'est la Chochma aussi, on dit que celui qui veut prier pour la Chochma, il doit se diriger un peu du côté du sud, ou prier dans la direction de Yerushalayim, mais un peu obliqué vers le sud. Mais en fait, il va vers le Negev. Le Negev, c'est aussi la partie la plus aride de Canaan, celle qui couvre le désert, que couvre le désert du Negev. C'est là qu'Abraham est venu s'installer. Il a vécu là-bas 26 ans à Beer Sheva. Et Amalek vivait dans ce désert. C'est le premier... Les explorateurs, ils sont entrés par là. Ils sont entrés par le Negev. Ils sont entrés par cette partie de Canaan. Abraham, puisqu'il va toujours vers ce Negev, il désigne ce désert comme l'objectif final de son voyage à travers Canaan. Il dit c'est. Il désigne ce désert comme l'objectif final de son voyage. Il trace la voie à sa postérité. Parce qu'on dit, le Negev transformé en terre fertile et florissante représente le point culminant de sa route vers la terre des ancêtres. Et elle évoque dans sa postérité donc. Et elle évoque dans ses cantiques l'ère messianique où Hachem ramènera nos captifs comme il ramènera des ruisseaux dans le Negev. Kafikim ba Negev. En Tehilim. Donc c'est ça l'idée. Pourquoi il va dire tout meilleur, j'aurais choisi le sud, je ne vais pas aller au nord. Vous savez probablement que, assez curieusement, la description du choix de Lot, d'avoir choisi, c'est marqué Vaïssa Lot et Enav, Vaïar et Kol Kikar Yarden, Kikula Mashke, Lifne Shachet Hashem et Sdom Bet Amora, Kegan Hashem Keretz Mitzrayim Boacha Tsoa. C'est vraiment le jardin d'Hashem, cette région-là. Ce pasouk-là, qui décrit tout ce qu'il a vu de beau, la Gemara, elle utilise ce verset-là, très curieusement. Lorsque Akadosh Baruch Hu a détruit Sdom, et Amora et les autres villes, là, il y a eu un moment où Hachem a dit à Lot, enfin les anges ont dit à Lot qu'il fallait qu'il parte. Hachem, il allait être sauvé par le mérite d'Abraham, il allait être sauvé. Donc il a parlé à ses fils, à ses gendres, à ses filles, etc., à sa femme. Alors ses gendres et ses fils se sont moqués de lui. Bon, ça va pas, non. Et donc évidemment, ils n'ont pas suivi. Et Lot est parti avec sa femme et ses deux filles qui n'étaient pas mariées, et elles l'ont suivi. Et puis, comme chacun sait, la femme de Lot, elle avait le mérite, suffisamment de mérite pour être sauvée, mais pas suffisamment pour voir ceux qui, eux, n'étaient pas sauvés, donc qui mouraient. Donc elle n'avait pas le droit de regarder derrière pour ne pas voir ça, parce que moi je suis sauvé, eux, ça n'avait pas le droit. Elle l'a fait quand même, elle a changé dans le statut de sel. Donc Lot se retrouve avec ses deux filles. Et il est tout seul. Tout le reste est désertique, tout ça a été complètement détruit. Et les filles, en tout cas, elles pensent qu'elles sont les survivantes de l'humanité. Et donc elles se sentent responsables et elles vont assurer la pérennité de l'espèce. Pareil, assurer la pérennité de l'espèce, ça veut dire qu'il y a un seul bonhomme qui peut les mettre enceintes et assurer la pérennité de l'espèce, c'est leur père. Mais leur père, elle pense qu'il ne sera pas d'accord. Bien qu'il n'y arrivera pas ou il ne sera pas d'accord, alors elles vont le saouler. Elles le saoulent et l'aînée des deux filles couche avec lui. Et le lendemain, l'aînée dit à l'autre, elle dit à la jeune, bon, aujourd'hui c'est à toi. Et les Chachamim disent, dans la Gemara, on dit, il y a un pasouk qui dit, Yesharim darkei Hashem, les voies d'Hashem sont droites. Tzadikim yelchuvam, ou pochlim mikashlouba. Les tzadikim, ils vont emprunter ces voies là, tout se passera très bien. Et les Recharim, les Pochim, Pochim c'est encore plus que Racha, les Pochim, ils vont trébucher. Ils vont trébucher sur des voies qui sont droites. Ils vont trébucher. Et la Gemara demande, là-bas dans Oriot, elle demande, ça veut dire quoi, il veut dire quoi ce verset? Ça parle de qui? De quoi? Alors, une des tentatives d'explication de ce verset, c'est de dire la chose suivante. Les tzadikim, dans cette affaire, qui empruntent la voie d'Hachem. La voie d'Hachem, ici, la voie est droite. Elles empruntent cette voie, qu'est-ce qu'elles font? Elles veulent assurer la pérennité de l'espèce. Donc elles vont, piéger leur père, si on veut, et l'entraîner dans un inceste. Mais elles sont appelées tzadikim. Elles piègent, elles violent leur père, et elles sont appelées tzadikim. Et Lot, ben, il a appelé le Poshéa. Il était sous. L'Agmara, qu'est-ce qu'il pouvait faire? L'Agmara, elle dit, si tu regardes bien, tu verras que quand la Torah, elle décrit le réveil de Lot et de la fille aînée après l'inceste, c'est marqué, Veyoda, Velo Yoda, Lot ne savait pas, Veshorba ou Bekuma. Il ne s'est pas rendu compte de ce qui se passait, ni quand il couchait avec elle, ni quand elle s'est levée. Mais c'est marqué sur le vav de Bekuma, il y a un point dans le Sefer Torah. La Gemara, elle demande, qu'est-ce qu'il veut dire ce point? Le point veut dire que quand elle s'est levée, il a quand même compris ce qui s'est passé. Donc, il savait, il ne pouvait plus rien faire. Il a compris qu'il avait couché avec sa fille, aînée. Agmar a dit, mais qu'est-ce qu'il pouvait faire? Il était anus, il était sous. Agmar a dit, mais le deuxième soir, il n'aurait pas dû se laisser enivrer. Donc, dit Agmar, il s'est laissé faire, ça veut dire qu'il était, ça ne le dérangeait pas de commettre un inceste. Agmar a dit, mais peut-être que lui aussi pensait qu'il fallait assurer la pérennité de l'espèce, c'était aussi un tzaddik. Alors c'est là que la Gemara, elle dit cette chose extraordinaire. Elle lit ce passouk là, et elle prend les mots un après l'autre, et de chacun de ces mots, elle trouve une occurrence de ce mot dans un contexte de déviance sexuelle ou d'adultère ou etc. En s'appuyant sur des psukim qui parlent de Madame Potiphar ou de toutes sortes de situations ou ou dans la parcha des Arayot, etc. Donc la Torah, elle dit, dans la Gemara, elle dit ici, lui, on le voit ici comme quelqu'un qui est intéressé par le matériel, quoi. Bon, ce qui, au fond, n'est pas si grave, pourquoi on n'est pas obligé d'aller dans le désert. Lui, il a choisi d'aller vivre dans l'opulence, peut-être, dans la richesse de Sdom. Mais la Gemara, elle dit qu'au fond de lui-même, c'est ça qu'on veut dire, peut-être de façon inconsciente, que quelque part, c'est ce que la Torah veut nous enseigner, il y avait dans la démarche de Sdom, dans la démarche de Lot, une volonté d'aller dans un endroit pourri et une volonté de, éventuellement, d'avoir un inceste avec ses enfants, avec ses filles. La Gemara est très, très dure ici à son égard. Donc, dit la Gemara, lui, c'est pour ça qu'il est un pochéa. Il est un pochéa parce que dans son subconscient, parce que la Torah, elle ne dit pas que c'est ce qu'il a dit, la Torah, elle dit qu'il a choisi pour le matériel, mais entre choisir le matériel et choisir une situation dans laquelle il aura l'occasion de commettre un inceste avec une de ses filles, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Mais c'est ça que l'Agmara, je voulais vous dire, c'est ça que l'Agmara dit ici, elle lit dans Lot qui a déjà, dans son subconscient, ou je sais pas quoi, conscient, quelque chose, qui est de l'ordre de la volonté d'un inceste.
Il est poché avant d'avoir
sauté. Oui, mais c'est pour ça que, quelque part, le Poshéa, il cache l'oubam, c'est-à-dire que, voilà, c'est le chemin, il est droit, mais Hachem va faire en sorte que, ou lui-même, quelque part, il va trébucher, parce que ce chemin, il est tout à fait droit, mais malgré tout, il passe par un inceste. Ça passe par un inceste. On ne lui reproche pas l'inceste. On lui reproche d'avoir voulu l'inceste. L'inceste, on peut dire, si on avait pu montrer qu'il était... ses filles, elles veulent l'inceste, et elles sont appelées tzadik. Donc on peut être sadique en voulant un inceste. Si on veut assurer la pérennité de l'espèce. Donc ça c'est le rapport de Lot, et puis ce qu'on a dit c'est que finalement Lot il a pensé que je vais aller du côté de Sodom, comme ça je vais échapper à l'emprise d'Abraham, je vais pouvoir faire ce que je veux, quoi, déjà. Mais ça c'était simplement, d'après ce qu'ils ont dit ici, c'était l'idolâtrie, mais pas jusqu'au point de faire l'inceste. Elle dit, mais non, il avait l'inceste aussi quelque part dans la tête. Et puis, il croyait faire les choses en cachette, et comme dit la Gemara, mais maintenant, toutes les années, on lit Amon, Moab, tout ce qui s'est passé, etc. Et l'exclusion d'Amon et Moab de la possibilité de se convertir et d'entrer dans le clan d'Israël. Et puis ensuite, il y a la guerre. Il y a la guerre. A priori, une guerre qui ne le concerne pas. Il y a une guerre entre cinq peuples et quatre peuples. C'est-à-dire, en fait, c'est des peuples qui s'étaient soumis et qui se révoltent contre ceux dont ils avaient accepté la domination, qui devait payer un tribut, et ils s'imaginent qu'ils sont plus forts et qu'ils vont pouvoir secouer le joug, etc. Donc ils font la guerre et ils la perdent. Mais dans les gens qui font la guerre, il y a Sodom, le roi de Sodom. Et dans ce cas-là, une fois qu'ils sont perdus, ils ont perdu la guerre, alors ils vont raconter que, en fait, tout ça, ça vient, c'est la faute de Lot. Pourquoi? Parce que c'est lui qui nous a incités à nous révolter, etc. Et par conséquent, ce qu'ils ont fait, le Midrash dit qu'ils ont mis Lot en cage, vous vous souvenez, je ne sais pas si vous étiez là au Midrash, ils ont mis Lot dans une cage, exposé, etc. Et pourquoi ils font ça? Parce que ils savent que quand Avram aura appris que Lot est prisonnier, Avram va venir essayer de le délivrer. Et maintenant, quasiment, il aura 9 armées contre lui, quoi. Donc, il n'a aucune chance, quoi. Donc, on va enfin pouvoir se débarrasser d'Avram et de ses idées, etc., qui nous empêchent de vivre normalement. Et donc, la Torah raconte qu'il y a un fuyard qui est venu. C'est le fameux fuyard, c'est Og. Og, il a échappé au déluge. Il était un géant, il avait la tête dans l'arche, il a été sauvé. Comment, demandez-moi, est-ce qu'il garantissait la étanchéité autour de la tête de Lot pour que l'eau n'entre pas dans l'arche, etc. Peu importe. En tout cas, Lot, Og, s'enfuit du terrain de la bataille et il va dire à Abraham que Lot est prisonnier. Sympa, quoi. Il va. Sauf que Rachel les dénonce, etc. En fait, ce Og-là, il voulait qu'Avram aille faire la guerre, et lui aussi, il voulait qu'Avram meure. Parce qu'il voulait Sarah. Il dit, si Sarah meurt, je vais pouvoir prendre Sarah. Et si Avram meurt, je vais pouvoir prendre Sarah. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est de nouveau un peu un sujet sur une mitzvah faite très fortement chez l'Olishma, il fait une mitzvah. Il va sauver Lot en appelant Abraham à la rescousse, mais c'est avec intérêt. D'accord. Son intérêt, c'est Sarah. Il voudrait qu'il meure, Sarah. Et dans la Torah, quand, bien plus tard, mon cher Rabbeinu, quand il doit faire la guerre contre Og, qui est devenu Melech à Bashan, mon cher Rabbeinu, il a peur. Il a peur de faire la guerre contre Og. Pourquoi? Parce qu'Og a un mérite. Il a sauvé Lot. Son Shelo Lishma, etc. Au point que Moshe Rabbeinu a peur. Il a peur que la guerre ne se déroule pas si facilement que ça contre un type qui a tellement de mérite, comme Og Melech HaBashan, qui est allé annoncer à Abraham que si ça m'arrange bien que tu ailles là-bas faire la guerre et que tu meurs pour que je puisse prendre ta femme. D'accord, c'est quand même pas mal. Moshe Rabbeinu, il a peur quand même. Alors, Abraham Avinu, il va aller faire la guerre. Mais on va lui faire des reproches parce que il aurait dû aller tout seul. Et c'est marqué qu'il a mobilisé Chanichei Beto, il a mobilisé les Bachurei Yeshiva dans sa Yeshiva. Il est allé leur faire la guerre. En plus que il y a un midrash, comme vous savez bien, qui dit qu'en réalité, il y avait personne d'autre que Eliezer. Mais la gematria d'Eliezer, le serviteur d'Abraham, c'est 318, et c'est le nombre de guerriers, d'élèves que Abraham a mobilisé. Donc en fait, il est allé faire la guerre, lui et Eliezer, tout et pour tout. Alors ils sont allés là faire la guerre. Seulement, quand on fait la guerre, et qu'on est Abraham Avinu, la guerre, c'est... Des fois, c'est nécessaire de la faire. Le problème de la guerre, c'est qu'on se salit les mains avec la guerre. Quoi qu'il en soit, on se salit les mains. Et Abraham, il ne voulait pas se salir les mains. Alors Abraham Avinu, il a fait la guerre à sa manière. Il a, vous vous souvenez, le Midrash, il leur a balancé de la paille et de la poussière. Ce qui était important, c'est le geste. Fait le geste de la guerre. Il ne va pas salir les mains avec des armes. Et ce qui leur tombait sur la tête, c'était bien des flèches et des épées, enfin de vraies armes de guerre. Et quand eux envoyaient les armes de guerre, ce qui tombait sur la tête d'Abraham, c'était de la paille et de la poussière. Mais il fait la guerre, il gagne la guerre. Abraham gagne la guerre. Il gagne la guerre et il libère Lot. Et alors là, il se passe une drôle de chose qui montre un peu là, l'esprit des gens. Le roi de Sodom, qui avait perdu la guerre, parce qu'il faisait partie de ceux qui ont perdu la guerre, les cinq qui ont perdu la guerre, il vient, comme si on l'avait invité, et il dit à Abraham... laisse-moi les hommes et prends le butin. De quoi tu te mêles? Je veux dire, on t'a invité, on t'a demandé ton avis. Et Abraham ne répond à la proposition de Sodome que sous la forme « Je ne prendrai rien du tout. On prendra seulement ce que mes soldats, ou mes assistants ont pris, ont dépensé en quelque sorte. Eux, ils vont être payés. » Parce que je ne suis pas un sadique sur leur compte, mais moi je ne prends rien, et il dit là-bas, c'est la fameuse phrase, je ne prendrai ni une lanière, ni un fil, ni une lanière, de tout ce butin. Et le fil et la lanière, comme vous savez, ça lui a donné le mérite de la mitzvah du fil, c'est les tzitzit, et la mitzvah de la lanière, c'est les tfilin. Donc ici, quelque part, Abraham Avinu, il acquiert le mérite de ces deux choses, en disant au roi de Sodom, stop, rien du tout. Mais il lui dit, pourquoi ça? Il dit, parce que je te vois arriver, tu vas tout de suite dire que c'est moi tu vas dire, moi j'ai enrichi Abraham en lui donnant le butin, et comme je sais qu'Hachem va m'enrichir, il m'a promis que je deviendrai un grand peuple, et et avec bénédiction et tout, Hachem va me bénir et je serai très très riche. Je ne veux pas que tu puisses jamais dire que toi tu y es pour quelque chose. Donc je prends rien. Je te connais. C'est intéressant de voir la chutzpa de ce roi de Sdom qui a perdu la guerre, qui a absolument droit à rien du tout. Et que, bon, c'est vrai que le pauvre Abraham, il s'est retrouvé du côté du roi de Sdom, puis il fait la guerre contre ceux qui ont gagné la guerre et qui ont fait prisonnier Lot. Il était, comme on disait en son temps, un allié objectif du roi de Sdom. Excusez, on ne peut pas faire, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Et donc voilà, Lot revient en fait, Lot est de nouveau libre, et il retourne à Sdom. C'est curieux, non? Il retourne à Sdom, il a rien compris, hein. Il y en a un autre qui a rien compris. Quand Avraham Avinu a fait la guerre, d'abord, il a fait la guerre de nuit. Vous vous souvenez? Il fait la guerre de nuit. Pourquoi? Parce qu'il dit, c'est pas parce que nous on a une règle qu'on fait pas la guerre de nuit. Il faut dire que les groupes électrogènes, ils n'avaient pas leur groupe électrogène avec eux, donc c'est un peu compliqué de faire la guerre de nuit, mais bon. Donc on ne faisait pas la guerre. Abraham a dit, je ne veux pas laisser Lot souffrir plus longtemps. Donc je fais la guerre de nuit. Pour ce qu'il faisait dans la guerre, il n'avait pas besoin de lumière. Donc il fait la guerre de nuit, et Akadosh Baruch Hu va lui dire, toi, tu as fait la guerre, il a partagé la nuit en deux. Sur la première moitié de la nuit, il a fait la guerre. Alors Hachem dit, je vais prendre moi un modèle sur toi. Et je vais aussi transformer en jour la deuxième moitié de la nuit. Pour tes descendants. C'est pour ça que quand on est sorti de Mitzrayim, il est sorti au milieu de la nuit, Hatzot, et il faisait jour. Pourquoi? Parce que Hachem a, ça c'est Hachem qui prend modèle sur Abraham Avinu. Il prend modèle sur Abraham, et comme Abraham a transformé la nuit en jour, il a fait la guerre, lui aussi il transforme la nuit en jour, et il éclaire les Bnei Israël durant toute la nuit, la fameuse nuit de la sortie d'Égypte. Ça c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est que quand Abraham revient de la guerre, il passe à un endroit qui est Shalem, une ville qui s'appelle Shalem. Le roi de la ville en question, c'est quelqu'un qui s'appelle, comment il s'appelle? Non, il est Cohen. Oh. C'est Shem, mais il a un nom.
Ah,
Melchisedek. Oui, oui. Comment il s'appelle? Pardon? Melchisedek.
Ouais.
Mon roi est juste. Ouais. Donc c'est Shem. Il est à la fois roi et grand prêtre de cette ville. Le problème, c'est que Shem, quand il est sorti vivant du déluge, il s'est dit, je ne peux pas maintenant vivre une vie comme monsieur tout le monde. Je veux dire, enfin, je ne peux pas simplement me mettre à vivre normalement. Je vais me consacrer à remercier Hachem, à le connaître, etc. Donc il s'est enfermé dans une espèce de tour d'ivoire, à partir de laquelle il a dirigé sa ville, Mais c'était vraiment une ville de, presque spirituelle, quoi. Et lui, quand il a vu arriver Abraham, et qu'il a vu qu'Abraham était le tzaddik qu'il était, mais qu'il était aussi impliqué dans le monde, il a complètement perdu les pédales. Donc, et alors, il a fait une bracha pour Abraham avant de faire la bracha pour Hachem, et il a apporté quasiment des korbanotes et des nisuchim et des... Oui. Oui. De vin, des libations de vin à Abraham. Il a quasiment divinisé Abraham, on l'a mis sur une espèce d'estrade, et il a apporté du vin et des korbanotes. Donc ça veut dire, il a perdu la tête, je veux dire, parce qu'il n'avait jamais imaginé qu'on puisse être tellement grand, et en même temps, ne pas être enfermé dans, dans une tour d'ivoire. Parce que c'est ça le problème. D'accord, c'est... Ce que la Torah demande, c'est que je ne veux pas que tu t'enfermes dans une tour d'ivoire. On voit très bien que même Rabbi Shimon, quand il est dans sa grotte et tout, c'est pas tellement évident toute cette histoire. Se couper complètement du monde et... Voilà, on va s'arrêter là. Bonsoir.